Quelques mots de mon invité d'aujourd'hui. La liberté est un mot qui ne peut jamais être réduit au silence. J'ai écrit dans ma cellule sur un bout de papier et je l'ai passé en fraude vers l'extérieur. C'était un lundi, mes amis chantaient des chansons de prison et je les entendais derrière les murs. Je les entendais ou peut-être je les imaginais chantant. Plus tard, j'ai appris que de fait ils chantaient tous les lundis. Les chansons étaient là, mais je n'avais pas la possibilité de les entendre. Je suis allé en prison parce que je ne pouvais pas rester trop longtemps sourde et muette à l'appel de cette expression impossible, appartenant peut-être à un passé lointain ou peut-être à l'avenir, l'être humain. J'ai été mise dans une cellule juste pour avoir écrit sur les atrocités commises dans une petite ville kurde qui a pour nom Cizre. J'étais et je suis toujours en procès avec la menace de prison à vie parce que j'ai rassemblé les derniers messages, les dernières voix, les derniers cris de 150 personnes enterrées vivantes dans des sous-sols en essayant de les transformer en littérature dans les colonnes d'un journal. Peut-être ceux qui ont lu mes articles ont-ils eu des difficultés à comprendre pourquoi et comment des textes si humanistes pouvaient être considérés comme une menace pour le système. Je pense que ce genre de texte ne fait pas, ne peut pas faire de compromis. Et cette absence de compromis fait partie de la littérature elle-même. Elle n'est pas en moi en tant que personne, elle est dans les mots.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quel sens mon invité d'aujourd'hui donne-t-elle au mot liberté? Elle qui est auteure, journaliste et poète, elle dont l'œuvre est saluée et traduite dans le monde entier, elle qui est toujours en liberté conditionnelle et qui encourt encore aujourd'hui la prison à perpétuité dans son pays pour délit d'opinion et destruction de l'unité de l'État turc. Son premier roman, publié, L'homme coquillage, écrit il y a plus de 25 ans, vient de paraître en France dans une belle traduction de Julien Lapeyre de Cabanès, l'histoire d'une jeune femme étrangère à son propre désir qui, lors d'un séjour aux Caraïbes, va progressivement s'ouvrir aux autres et se révéler à elle-même. Bonjour, Asli Erdogan.
Hello, bonjour.
Merci beaucoup d'être là. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes sentie libre?
C'est
une question très difficile.
Mais
j'ai éprouvé un certain sentiment de liberté à la montagne, en Italie. Après ma libération de prison, je suis allée au bord de la mer pour ressentir la liberté. Mais non, la mer en hiver m'a ramenée en prison. Et c'est des mois plus tard, dans les montagnes italiennes, que j'ai senti un léger souffle de liberté.
Qu'est-ce que ça veut dire, être libre pour vous?
It takes a lifetime to discover.
Il faut une vie entière pour le découvrir. En fait, c'est en prison que j'en ai le plus appris sur la liberté. C'est là que j'ai écrit « La liberté est un mot qui ne peut être réduit au silence ». Et je continue de chercher, c'est pas facile. Ne pas être en prison, bien sûr, ne signifie pas être libre.
La liberté, pour tous ceux qui sont menacés par le pouvoir, pour tous les exilés, les réfugiés, c'est depuis toujours l'un de vos combats, Asli Erdogan. Pour qui est-ce que vous vous battez aujourd'hui?
Peut-être le mot libération convient mieux à mon propos parce que je n'ai jamais su vraiment ce qu'est la liberté. Mais la libération, c'est essentiel. Et ça, on le sait. On sait quand on est libéré. Et ce pourquoi je me bats, je ne sais pas, peut-être pour les mots, pour la liberté de la parole, plus que tout.
Comment est-ce que ça se manifeste, la liberté des mots?
That again takes a lifetime.
Là encore, il faut toute une vie pour le découvrir. J'aime cette belle phrase de Tolstoï. Il n'y a pas de captivité absolue, comme il n'y a pas de liberté absolue. L'intérêt de cette phrase tient au personnage qui la prononce dans le livre. C'est un prisonnier. En prison, quand vous êtes dépouillé de tout, vous prenez conscience qu'il vous reste les mots. Et ça, ils ne peuvent pas vous l'arracher.
Et quand est-ce que vous avez compris que c'était avec les mots que vous alliez vous battre?
Quand j'ai commencé à écrire, c'était un acte de survie. Puis c'est devenu un combat. Ou plutôt, je comprends rétrospectivement que je me battais. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Je ne me suis jamais considérée comme une combattante. Je suis juste une survivante.
Quelles larmes sont-ils les mots, Asli Erdogan, pour vous?
Yes, that is the beautiful dilemma.
Oui, c'est le magnifique dilemme de l'écriture. Est-ce un bouclier ou une arme? S'agit-il d'interroger le réel ou de fuir la réalité? Est-ce un témoignage? Ou simplement un monologue avec votre conscience? C'est un mélange de tout ça.
En tout cas, ce sont des choses qu'on peut facilement confisquer.
2016. Asli Erdogan est envoyé à la prison pour femmes de Bakirköy. Son délit, écrire des chroniques pour le journal pro-kurde Özgür Gündem.
J'ai ouvert ma porte et je me suis retrouvée avec une arme pointée sur la poitrine. Une quinzaine de policiers des forces spéciales ont envahi mon appartement. Ne bougez pas, rendez-vous, m'ont-ils dit.
4 mois de prison fin 2016.
Pour sa mère, le prix de l'engagement de sa fille est trop élevé.
Ma fille est une pacifiste, une activiste des droits de l'homme qui dénonce les violations. Son cas n'est pas juridique, mais politique.
Depuis le putsch avorté de juillet, le gouvernement traque les potentiels responsables. Mais il a élargi la vague d'arrestations à toutes les voix critiques, en particulier aux Kurdes et aux journalistes.
Ils vont passer le reste de leur vie derrière les barreaux, Nazlı Öleceğ, Ahmet et Mehmet Altan, tous les trois journalistes et écrivains parmi les plus connus en Turquie.
Aujourd'hui, 29 autres journalistes vont connaître leur sort à l'issue d'un nouveau procès très politique comme il s'en déroule de plus en plus dans le pays. Depuis le coup d'État manqué, une purge massive contre les universitaires, les fonctionnaires, les militants des droits de l'homme et donc contre également les intellectuels.
En matière de liberté de la presse, la Turquie occupe désormais la 155e place sur 180 dans le classement établi par Reporters sans frontières.
Asli Erdogan, votre arrestation a été l'une des plus médiatisées dans le monde. Depuis, l'État turc continue d'enfermer, de condamner, de réduire au silence nombre de journalistes, d'écrivains et d'intellectuels. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe et des grandes instances internationales aujourd'hui ?
La solidarité internationale a beaucoup aidé dans mon cas. Ça a été vraiment miraculeux. Je crois que l'intention derrière mon arrestation était de me garder enfermé toute ma vie. Je commence maintenant à le comprendre. Et grâce à cette mobilisation internationale, j'ai été relâché. Bien sûr, j'ai été libérée sous condition, mais j'ai été libérée. Mais il y en a des centaines d'autres comme moi en prison. Et tous les jours, quelqu'un peut être jeté derrière les barreaux. Et puis vous savez, il y a eu aussi de nombreuses tractations en coulisses. Et d'une certaine manière, ça fait mal de voir que votre vie est l'objet de négociations.
Qu'est-ce qu'on peut faire précisément ?
I wish I had a recipe or,
j'aimerais avoir la recette.
Well, what can Europe do, or
bon,
what
que peut faire l'Europe? Que veut-elle faire? Y a-t-il une seule Europe? Existe-t-il une seule France? Après tout, quand l'enjeu porte sur de gros contrats commerciaux ou des ventes d'armes, qu'est-ce que ça pèse, la vie d'Asli Erdogan ou d'Ahmet Altan? C'est peut-être une vision naïve des choses, mais je crois vraiment que l'Europe, ou au moins la France, a tout intérêt à toujours réaffirmer ses idéaux et ses valeurs.
Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on s'attaque à ceux qui écrivent, Asli Erdogan ?
D'après mon expérience, quand un régime commence à devenir de plus en plus autoritaire, la première cible, ce sont les journalistes. Ils sont plus visibles que les écrivains. D'ailleurs, la plupart des écrivains emprisonnés en Turquie ont été arrêtés à cause de leur relation avec des journalistes. La littérature est plus invisible, du moins dans la société turque. Mais ils ne se limitent pas aux journalistes, jamais. Ils veulent monopoliser la vérité. Ensuite vient le tour des artistes, puis le tour des écrivains, celui des universitaires. Et à mesure que l'oppression s'étend et se renforce, le moindre murmure est pris pour une menace.
Récemment, Asli Erdogan, vous vous êtes rendu compte que votre éditeur turc avait remplacé votre CV actuel par un CV datant de 2003 et qui fait silence sur tout ce que vous avez fait depuis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Je pense que c'était un symptôme annonciateur du procès. Parce que je n'étais pas de ces auteurs qui se cachent derrière leur CV, leur carte de visite. Mais aujourd'hui, ça me blesse. Maintenant qu'ils m'ont tant pris. Longtemps avant que j'aille en prison, il y avait déjà un tel silence autour de mes écrits. Essentiellement parce que j'étais une femme. Et tout ça s'est cristallisé dans ce CV. Mais les vrais lecteurs n'en ont cure.
Mais ça veut dire quand même qu'on vous efface.
Oui, ils m'ont effacé. Ils ont refusé de le modifier. C'est tellement facile pour eux. Bon, mon CV, ce n'est pas ma vie, mais quand même, c'est... Vous comprenez, les gens ont beaucoup de choses dans leur vie, des familles, des amants, des enfants, des amours. Et moi, qu'est-ce que j'ai ? Quelques livres traduits en différentes langues et une poignée de citations.
Quand est-ce que vous avez ressenti pour la première fois le désir, le besoin, la nécessité de quitter la Turquie ?
Très tôt.
J'avais une vingtaine d'années, j'ai décidé de partir. Je suis venue à Genève, et depuis je n'ai cessé de partir et de revenir. Je quitte la Turquie, puis j'ai le mal du pays, je rentre. La première semaine, je regrette d'être revenue, c'est comme un mouvement de balancier.
Et de quel ailleurs est-ce que vous rêviez, déjà ?
La quête de l'inconnu, de l'ailleurs, c'est toujours ce qui nous pousse à quitter le paradis. On imagine trouver plus de liberté, plus de bonheur, plus de possibilités. Parfois, c'est seulement votre imagination, parfois c'est vrai. Mais j'ai toujours été attirée par ce qui était différent de moi. Plus je pouvais m'éloigner de moi-même, partir au Brésil, sur une île tropicale. Je voulais partir le plus loin possible.
Celle qui est tout entière dans l'imagination, dans cette émission, peut-être la connaissez-vous, Asli, c'est la culture et son actualité accueillante, bienveillante et ouverte sur l'ailleurs. Que se passe-t-il donc aujourd'hui ? Des cloches pour Pâques, mais aussi des violons, du piano et des flûtes. Aix-en-Provence accueille dès aujourd'hui la 6e édition du Festival de Pâques. Rendez-vous incontournable du printemps lyrique, au programme de l'excellence et de l'audace, avec Claude Debussy en grande pompe pour le centenaire de sa mort, l'anniversaire des 80 printemps du violoniste Gérard Poulet, et la jeune prodige Alma Deutscher, 13 ans, déjà surnommée le nouveau Mozart de l'opéra. Allez là. Mozart du jour, Mozart toujours, les très chics éditions des Saint-Pères, spécialisées dans la publication de facsimilés de haute tenue, font paraître aujourd'hui le carnet musical du prodige autrichien, soit 10 ans de notes et de partitions manuscrites pour une plongée fascinante dans le processus de création du musicien disparu en 1791, 48 feuillets au total pour découvrir à l'écrit la virtuosité de Mozart et de la flûte enchantée ou du mariage de Figaro.
If I can find an interesting scenario, then that's where I get inspired.
À Kerr perdu, l'écrivain écossais, figure du polar historique Philip Kerr, c'était un vendredi, il avait 62 ans, disciple de Raymond Chandler et enfant d'une terre d'ombre et de fantômes. Il était notamment le père de Bernie Gunther, cet inspecteur anti-nazi sous le Troisième Reich, auquel il consacra près de 12 romans. Son prochain ouvrage, Bleu de Prusse, délivrer les fantômes du nazisme, doit paraître le 3 mai prochain. Kerr sur Philip Kerr. Thierry a dit « Fini de gaulerie ». Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, a décidé de serrer les boulons. Dans une interview donnée au Film français, il a annoncé une série de mesures pour l'édition 2018 du Festival de Cannes. Fini donc les selfies sur rouge tapis, fini aussi la compétition pour les films Netflix qui ne sortiront pas en salle, et surtout fini les projos presse avant la présentation officielle d'un film. Frémaux entend ainsi redonner toute leur magie et leur éclat aux soirées de gala du festival, le cinéma. L'écrivain Asli Erdogan, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour L'Homme coquillage, son premier roman publié, écrit au début des années 90, qui n'avait jamais été traduit en français. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec ce premier livre ?
J'ai une relation très pathologique avec ce livre. Je ne l'ai jamais relu. En fait, quand il est sorti, j'étais déjà au Brésil. Et l'éditeur m'en a seulement envoyé 4 exemplaires. Alors je ne suis pas passée par le cérémonial qui fait de vous un écrivain, les interviews, tout ça. Ce qui finalement fut une bonne chose.
Pour autant, vous vous souvenez de la femme que vous étiez au moment de l'écriture ?
Yes, very much.
Oui,
because,
très bien. D'ailleurs, on le sent dans ce livre. C'est le seul livre que j'ai écrit en étant amoureuse. J'habitais à Istanbul avec des immigrés africains. Et je vivais une dichotomie. Le jour, j'étais physicienne. La nuit, j'étais une migrante clandestine. Et j'étais très amoureuse. Mais cette époque est aussi associée à des drames terribles, ce qui explique peut-être en partie ma réaction. Ce livre est resté dans mon sac à main pendant des mois quand j'étais au Brésil, et je ne l'ai jamais lu.
Alors on retrouve certains échos de ce que vous venez de dire dans le roman, précisément, cette carrière de scientifique dans la physique nucléaire, c'est la profession de votre héroïne. Quel a été le déclic pour tout plaquer? Parce que c'est ce que vous avez fait, Asli Erdogan.
La narratrice n'est pas exactement moi. Elle est plus courageuse que moi quand il s'agit de prendre des décisions. Moi, je n'ai jamais rien décidé toute ma vie. C'est arrivé comme une transformation. Une transformation essentiellement nocturne. J'ai juste découvert le résultat un beau matin. Il me restait un dernier examen à passer, une formalité. J'avais pratiquement décroché mon doctorat. J'ai su que c'était terminé. Je ne me suis pas présentée à cet examen et je ne l'ai jamais regretté. Mais ce n'était pas pour devenir écrivain. C'était juste que ma vie de physicienne était derrière moi et je le savais.
Pourtant, vous avez embrassé la carrière d'écrivain, vous, à un moment.
Oui, en effet. Mais j'ai toujours essayé de séparer les deux, écrire et être écrivain. En fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes avec le second terme de cette identité. Je le rejette de manière subconsciente ou semi-consciente. Je ne veux pas être l'écrivain.
Pourquoi ?
Because I miss that little dark room. Parce que j'ai la nostalgie de cette petite pièce obscure, cette pièce nocturne, où j'étais seule avec les mots, personne pour me regarder. Ces jours d'écriture-là, ceux de l'amateur, sont les plus beaux. Je suis une grande romantique.
Les questions de désir, d'ailleurs, dans ce livre, L'homme coquillage, Asli Erdogan, et le désir qui est difficile à retrouver, il passe dans ce livre par une rencontre, celle de l'homme coquillage, donc cet étrange personnage qui pêche des coquillages et qui les vend sur la plage. Il est noir, il est pauvre, il est orphelin, il s'est fait torturer et défigurer, et pourtant, votre héroïne est attirée par lui. Pourquoi ?
Oui, elle est amoureuse de lui, mais aussi elle le détruit. En fait, elle le tue métaphoriquement. Tout ce qui la repousse ou la menace l'attire en même temps. Le dilemme, l'ambivalence des sentiments humains ou de mes sentiments, tout cela est mêlé. Je vais vers ce qui m'effraie le plus.
Et puis, Asli Erdogan, il est du côté de la douceur et de la poésie. Cet homme coquillage, à sa façon, c'est un poète. Qu'est-ce que c'est un poète pour vous?
Oh, yes, he has a beautiful relation with words. Il a une belle relation aux mots.
He has a deep relation, let's say.
Et une relation profonde, plus qu'elle, avec l'eau, avec la mer,
sky, with the
le
colors.
Ciel, les couleurs.
In fact, he opens a path.
En fait, il lui ouvre un chemin, peut-être. Ses portes fermées en elle, il l'aide à les ouvrir. À travers toutes sortes de sentiments, à travers la peur. Et il rejette, il refuse, c'est sans doute ce qu'elle aime en lui, il rejette le pouvoir qu'il a sur elle. Oui, c'est peut-être ça la poésie au fond. Disons que je suis pour une littérature qui refuse son propre pouvoir, une littérature qui se range du côté des perdants.
C'est quelqu'un qui défie aussi forcément l'autorité, le poète. C'est quelqu'un qui inquiète. Et qui mieux pour chanter la force des poètes que Léo Ferré, poète vos papiers, disait-il, vous êtes sur France Inter, avec Asli Erdogan, vous écoutez Boomerang.
Bipède, volupteur de lyre, épouchâtré de polymnie, férolé de lune à confire, grand duc bouillon des librairies, maroufle, appendre à l'hexamètre, voyou décliné chez les Grecs, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec, poète. vos papiers. Poète, vos papiers. J'ai bu du Waterman, j'ai bouffé l'itré, et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un axe. J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne, et j'ai joué au casino les subjonctifs, la chemise à Claudel et les condits modernes. Spécialiste de la mistoufle, immigrant qui pisse au visa, aventurier de la pantoufle sous la table du nirvana, meurt de faim qui plane à la une, écrivain public des croquants, anonyme qui s'entribune à la barbe des continents. Poète, vos papiers. Poète, documenti. Littérature obscène, inventée à la nuit, onanisme torché au papier de Hollande. Il y a partout à l'hémistiche mes amis, et que m'importe alors Jean Genet, que tu bandes. La poétique libérée, c'est du bidon. Poète, prends ton verre et fous-lui une trempe, mets-lui les fers aux pieds et la rime au balcon, et ta muse sera sapée comme une vampe. Ventre affamé qui tend l'oreille, maraudeur aux bras déployés, pollen au rabais pour abeilles, tête de mort rasée de frais, rampant de service aux étoiles, poitre qui fait dans le quatrain, masturbé qui vide sa voile à la devanture du coin. Poète, circulez, poète, circulez, poète, circulez.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Est impressionnante de calme et d'intensité ce matin, cheveux d'un blond orangé, visage impassible, très concentré, regard bleu, à la fois vague et acéré. Elle porte combien d'histoires en elle, combien de silence aussi, avec sa petite veste noire, sa chemise verte, ce matin, si intense. Asli Erdogan, invitée de Boomerang, pour L'homme coquillage, ce roman qui est sans nul doute l'œuvre d'une poétesse, puisqu'il accorde au sens et aux sensations une place centrale. On le disait dès les premières pages, la chaleur des tropiques est presque palpable, et cette chaleur, elle va avoir un impact sur le corps de votre héroïne, Asli. Pourquoi le corps est-il si important pour vous?
Well, actually, I think... My third novel, The City in Crimson Cloak.
Je pense qu'avec mon troisième roman, La ville dont la cape est rouge, qui se situe au Brésil, à Rio de Janeiro, j'ai poussé ça encore plus loin. Tout le roman, où toute la ville devient le corps de la narratrice. C'est caractéristique de mon écriture. L'intérieur et l'extérieur sont toujours mêlés. L'intérieur se projette au dehors. Et une île ou la ville ou la nuit se transforme et devient le corps blessé de mes personnages. La plupart de mes personnages sont meurtris. Et mon écriture est très corporelle, presque viscérale. Il y a beaucoup de liquide dans ce livre, et beaucoup de couleurs et d'explosions des sens. C'est peut-être comme ça que je ressens la vie.
Quel regard précisément est-ce que vous portez sur votre corps aujourd'hui?
À
l'évidence, c'est un corps blessé. Mon cou tient avec une prothèse, donc mon regard sur moi-même a complètement changé depuis 7 ans. Avant, je pratiquais la danse et maintenant je suis à moitié handicapée. Mais oui, c'est un thème récurrent. Il y a toujours un manque. Chez tous mes narrateurs, tous mes protagonistes, une infirmité, une blessure, une fêlure. Ça doit être comme ça que je me vois.
C'est intéressant que vous parliez de danse, parce qu'elle fait de la danse, votre héroïne. Elle danse beaucoup, comme vous. Quelle danse est-ce que vous pratiquez, vous?
Just like my other heroine, Özgür,
oui,
in Rio.
Comme mon autre héroïne, Özgür, à Rio. J'ai longtemps pratiqué la danse classique et j'ai découvert les danses africaines et le jazz beaucoup plus tard. Mais contrairement à mes personnages, je suis très conservatrice. Je suis toujours revenue à la danse classique.
Et que vous a appris la danse classique ?
La danse classique n'est pas vraiment le moyen idéal d'avoir une relation à son corps, parce que le corps est réduit à des lignes. Mais à travers la danse, notamment les danses rituelles, au Brésil, j'ai dansé dans une cérémonie de candomblé. C'est très très difficile d'exprimer par les mots ce que nous apprend la danse, sans doute impossible. Mais on apprend quelque chose. On apprend que notre corps existe.
Dans quelle mesure est-ce que danser, c'est une autre façon d'écrire? Asli Erdogan.
Yes, very much so. And,
oui, c'est tout à fait ça.
Sometimes in the past when
il m'est arrivé par le passé d'atteindre un point dans mon écriture où je savais que je ne pouvais pas aller au-delà et je le comprenais avec mon corps. Alors je me levais, je me mettais à pleurer, à danser, et ces phrases-là étaient souvent les meilleures. Mais je savais qu'il y avait davantage à dire, mais les mots ne suffisaient pas. Et mon corps réagit très fortement. Quand je suis absorbée dans un projet d'écriture, par exemple, quand je finissais d'écrire le bâtiment de pierre, j'ai dû être opérée du rachis au niveau du cou. J'étais pratiquement paralysée, tellement mon corps avait réagi à ce thème de la torture. Alors, je sais que ce que j'ai écrit est sincère.
J'aimerais, si vous le voulez bien, lire un extrait de L'Homme coquillage, un extrait où il est question de poésie, de corps et de mots. « Tandis que sur ma peau, les perles d'océan devenaient gouttes de sueur, un poème me vint à l'esprit. Il n'y avait que moi et le blanc océan, ruant comme un cheval qui a brisé ses chaînes. J'ai enfoui sous un peu de sable la clé d'or de ma solitude. Je ne parvins pas à faire quelques vers de plus, ni un poème, bien que j'eusse aimé. Mais jusqu'aujourd'hui encore, je n'ai jamais tenté d'écrire de la poésie. Mon rapport aux mots avait évolué depuis que j'étais arrivé sur l'île. Ce n'était plus comme autrefois des entités familières dont je pouvais disposer à loisir. Ils avaient gagné une autonomie propre. Quant à moi, je découvrais une autre dimension. Des émotions nouvelles, des émotions sauvages, plus simples, moins superbes, que les mots étaient impuissants à restituer. Face à l'océan, mon visage offert aux caresses des vents chauds, aux salines odeurs, mes oreilles emplies du gémissement des palmiers, j'oubliais tout, tout ce que j'avais su. Les vagues de l'immense océan s'étaient glissées entre le présent et mon passé. Le vent était plus fort que tous les mots, et la pluie plus antique que les premiers souvenirs. Qu'est-ce qu'on fait, Asli Erdogan ? Quand les mots ne suffisent plus.
dance.
Bien, danser.
Dancing was my answer. And
ma réponse était danser.
Now, as a writer, I guess.
Et aujourd'hui, puisque j'écris, il me faut croire en la phrase d'après, le mot suivant.
And try to find
et essayer de trouver le mot suprême, celui qu'on cherche depuis si longtemps.
Il ne faut pas céder à la tentation de rester silencieux aussi.
Mais au bout d'un moment, pour reprendre le titre d'un de mes livres, le silence même n'est plus à toi. Vous êtes dépossédé de votre propre silence. Et la vie peut quelquefois être tellement silencieuse que vous voulez désespérément entendre une réponse. Mais rien ne vient. Alors vous devez imaginer cette réponse au nom de la vie.
Merci infiniment, Asli Erdogan, d'avoir partagé votre voix avec les auditeurs de Boomerang. L'Homme coquillage, dans une si belle traduction de Julien Lapeyre de Cabanas, est publié aux éditions Actes Sud. Merci également à votre interprète ce matin, Eve Der. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers. Juste après ça. Dream of a land my soul is from. I hear a hand strong on the drum. Shades of delight go for you. Rich as the night. Afro. Afro blue. Do.
shout for joy. Daylight can wear shades of the light. Coco will reach as the night. Afro, Afro will. Whispering tree, echo the sights, passionate pleas, tender replies, shades of delight, conquer you, rich as the night, Afro, Afro.
Blue, Mélanie de Biasio sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure de Sonia De Villers, les médias, l'instant M.